Il écrit l'histoire des autres. Grands-parents, personne en responsabilité ou personne anonyme, Patrick Dubois-Baudry est écrivain biographe installé en Vendée depuis 6 ans. Il est notre invité dans Rencontre. C'est un homme un peu kaléidoscope qui a le goût du voyage pour lui-même, pour les autres. Les gens se confient à lui pour écrire leur biographie. Récit d'une autobiographie par un biographe, c'est aujourd'hui dans Rencontre. Dubois-Baudry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, de venir sur l'antenne de RCF Vendée pour cette émission Rencontre. On va un petit peu parler de vous, une fois n'est pas coutume, puisque vous faites plutôt parler les autres dans un métier assez original. On va en parler bien sûr abondamment, mais on va aussi parler de vous, mais peut-être en dire quelques mots déjà. Votre profession d'écrivain biographe, c'est une profession assez récente, hein, on peut dire.
Oui, c'est une profession récente, disons qu'elle remonte à peut-être à 7-8 ans. Autrefois, si vous voulez, les gens racontaient leur vie à la veillée, donc le soir. Et puis aujourd'hui, comme la famille est éclatée, tout ça, donc il n'y a plus du tout cette communication et les grands-parents ont envie justement de témoigner auprès de leurs enfants, arrière-petits-enfants, justement par l'intermédiaire de livres, de récits de vie.
Et c'est une profession vraiment, vous en vivez ou faites d'autres choses à côté ?
En vivre, c'est encore très difficile. Je vous dirais quand même que j'ai multiplié par 3 mon chiffre d'affaires, mais il faut voir d'où on est parti. Donc voilà, ça dépend d'où on part. Ouais, non, c'est encore très très difficile d'en vivre confortablement. Et donc je fais parallèlement de la communication pour les entreprises. Mais c'est une profession qui marche de mieux en mieux.
C'est un peu aussi un reflet des gens, un reflet de leur âme, de leurs souvenirs, de plein de choses. On va en parler bien sûr. Mais ce monde de l'écriture, ce monde peut-être aussi du voyage à travers la parole des autres, à travers toute la vie des gens, c'est quelque chose que vous tenez depuis très tôt, auquel vous tenez depuis très tôt, Patrick Dubois-Baudry. Vous êtes issu d'une famille bretonne, d'une famille malouine, et vous avez grandi à Rennes, je crois, c'est ça ?
Oui, j'ai grandi à Rennes, je fais mes études, une partie de mes études à Rennes également.
Et alors, très, très jeune, il paraît que vous aviez peut-être cette petite fibre du journaliste déjà.
Ce qui est très amusant, c'est que alors que j'étais seul chez moi, je devais avoir 12-13 ans, j'ai profité de l'absence de mes parents pour demander à une personne à sans-abri. À l'époque, on les appelait les clochards, aujourd'hui on dit les sans-abri. Donc j'ai profité pour demander à cette personne si elle voulait bien que je l'interviewe, que je lui demande de raconter sa vie. Cette personne s'est tout à fait prêtée au jeu.
Vous travaillez en fait dans le jardin de vos parents.
Voilà, cette personne venait travailler dans le jardin de temps en temps, donc je la connaissais. Et donc, il a accepté de venir et me raconter sa vie. J'étais très émerveillé et ça m'a vraiment... ça commençait déjà, quoi, cette vocation.
Vous sentiez plutôt que vous aviez quelque part une fibre ou une patte littéraire, l'écriture, la lecture
Oui, j'ai toujours été attiré par l'écrit, très très jeune, les petits voyages que je pouvais faire, les vacances et tout ça, j'écrivais, j'avais un journal et je tenais un cahier régulièrement, et j'écrivais toutes les petites informations du jour, les petites anecdotes, oui j'aimais beaucoup écrire déjà.
Et vous êtes d'une manière un peu introspective, analysé, pourquoi finalement ça
Non, je ne me suis pas analysé, pourquoi je ne sais pas, non pas du tout,
il y a des choses qui peut-être...
Non, mais il y a une chose qui est importante, j'étais également très attiré par la photo, et enfin vraiment la photo pour moi c'était extraordinaire, et je faisais également beaucoup de photos, alors je ne sais pas si... Voilà, donc je ne sais pas trop quoi répondre à ça...
En tout cas, vous aviez aussi le goût un petit peu de partir, quand même de voyager.
Oui.
Votre parcours, au moins dans les premières années, on peut dire, reflète ça, c'est ce goût. Je crois que vous êtes parti très tôt, dès 18 ans, je crois, même au Maroc, hein, c'est ça?
Voilà, alors j'ai parti très tôt, je suis parti en stop, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Pas une seule fois j'ai dormi à l'hôtel. J'ai toujours été accueilli par les gens, donc voilà, des inconnus, et donc j'ai rencontré des personnes. Donc j'avais déjà ce goût de la rencontre. Je pense que j'ai toujours eu le goût justement de la rencontre avec les gens. J'aimais beaucoup parler avec eux. J'aimais beaucoup. Je m'intéressais beaucoup à leur vie, la façon dont ils vivaient. Je crois qu'ils m'ont beaucoup appris. Voilà, c'était très très important pour moi.
Et vous notiez tout également sur des carnets.
Oui, je notais sur mes carnets et je faisais des dessins. Voilà, je faisais les deux, c'était une sorte de carnet de voyage.
Alors vous avez fait des études de droit, de sociologie, et vous êtes parti même continuer vos études au Liban aussi. C'était une manière aussi de voyager encore.
C'est une manière de voyager, et puis ça va vous paraître très simpliste que ce que je vais vous dire, mais moi j'ai été bercé par les aventures de Tintin. Et notamment par Au Pays de l'Or Noir, et je me disais, tiens, pourquoi je n'irais pas Au Pays de l'Or Noir? Et voilà, le Liban, il y avait une possibilité au Liban, donc je suis parti au Liban, passé 2 ans, donc pour poursuivre mes études, sociologie, à l'école des lettres de Beyrouth, et également pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'enseignais le français donc aux adultes, à des militaires notamment.
D'accord. Vous êtes parti aussi, vous avez fait un petit tour au Canada aussi, c'est...
Oui, j'ai fait un petit tour de 2 ans au Canada où j'ai fait un petit peu tous les métiers. D'abord dans la restauration, parce que les Français, c'est vrai, sont réputés pour leur savoir-faire dans la restauration. Et donc j'ai travaillé comme barman, j'ai travaillé également dans les cuisines, j'étais gérant de crêperie. Et voilà, donc dans la restauration. Sinon, j'ai fait du journalisme aussi pendant quelques temps dans un hebdomadaire où j'allais interviewer différentes personnalités. Enfin, je dirais plutôt que c'était un hebdomadaire un peu à sensation. Le rédacteur en chef était d'ailleurs un Français.
D'accord. Et une petite école de français également.
Oui.
Pour,
Voilà, alors je suis allé attendre à un guichet, j'ai payé 5 dollars et j'ai pu monter ma société. Et donc j'ai
monté. C'est beau ça, c'est beau ça.
Oui, c'est beau.
Redites-le parce qu'en France.
Voilà. Et j'étais complètement étonné effectivement. Et donc j'avais quelques clients. Voilà, bon, ça n'a pas été une école extrêmement florissante, mais elle me permettait de vivre.
Le cœur de votre activité professionnelle, vous l'avez vécu, je pense, on peut dire, en région parisienne, c'est ça ou...
Oui, alors ensuite, après, je suis retourné à Paris où j'ai passé...
Vous avez pas mal de métiers, finalement.
Oui, alors beaucoup de métiers, mais avec toujours quand même comme dénominateur commun, l'écriture. Mm-hmm. Bon, il y a eu l'image aussi, j'ai fait beaucoup de réalisations et surtout de conception de films vidéo. Mais j'écrivais donc les textes, hein, j'écrivais les commentaires, c'est des films vidéo pour les entreprises, donc écriture également. J'ai également travaillé dans les entreprises je faisais les dossiers de presse, je faisais les plaquettes également.
Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est vous avez travaillé pour notamment pour une boîte de production qui travaillait pour TF1 pour le télé-shopping, c'est ça, le téléachat par la télé. Qu'est-ce que vous faisiez, parce que c'est assez c'est pas banal en fait.
Je racontais la vie des moulins à café, des lave-linges, enfin des bijoux, aussi des bagues. Enfin, il y avait de tout. Hein. Donc en fait, mon rôle c'était de décrire un argumentaire qui serve d'outil à l'animateur. C'est-à-dire l'animateur après se basait sur mon argumentaire pour présenter l'objet au téléspectateur. Donc c'était un travail amusant, enfin je l'ai fait pendant 10 ans, pas à temps complet parce que j'avais une autre activité parallèlement, mais c'était un travail amusant, ouais, voilà, je dirais, et enrichissant également.
Peut-être
pas enrichissant, pas sur le plan financier, mais sur le plan personnel.
À la fin on a aussi peut-être marre de parler des objets, vous avez peut-être voulu aller un peu plus loin dans l'humain aussi peut-être.
Oui, alors j'ai surtout eu marre de parler la langue de bois de l'entreprise. J'ai eu marre du cadre dynamique, j'ai eu marre de l'équipe, enfin de la technologie performante. J'ai eu envie d'avoir de vraies personnes en face de moi, des gens qui étaient eux-mêmes. Et c'est pour ça que, un peu par hasard, j'ai découvert sur Internet que le métier de biographe existait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? J'aime écrire, j'aime les gens, je suis relativement à l'écoute, enfin, j'arrive à, oui, je m'intéresse aux autres, pourquoi pas? Et donc j'ai tenté ma chance, voilà.
Marre en fait d'écrire toujours peut-être la même chose dans un monde peut-être très très profilé, très très comment dire, très stéréotypé hein, en fait.
Oui oui tout à fait très très stéréotypé comme je disais. Il suffit de changer le nom de la société, le discours est exactement le même. Oui moi j'avais l'impression
un produit performant, une équipe dynamique.
Voilà absolument un produit performant, équipe dynamique. Je n'ai jamais entendu dans les récits de vie quelqu'un me dire j'utilise une technologie performante et je suis quelqu'un de dynamique. Donc voilà, c'est c'est une boutade, mais...
Ouais. Et du coup, entre guillemets, un passage à l'acte il y a à peu près 6 ans, c'est ça
ou un passage à l'acte très, ouais. Très progressif.
Très hein. Progressif, oui.
Ouais, tout à fait. Mais comme j'ai vu que oui, ça se développait de plus en plus, j'ai vu que c'était un travail qui m'intéressait. J'ai rencontré des gens extrêmement différents. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses en fait, j'apprends énormément de choses en rencontrant les gens. Et voilà, j'ai connu des milieux de personnes que j'avais jamais fréquentées.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Patrick Dubois-Baudry? Je rappelle que vous êtes écrivain biographe, vous êtes installé en Vendée. Qu'est-ce qui vous a amené sur les terres de Vendéennes?
Ah, j'étais après Paris, je suis allé passer quelques années en Bourgogne. La Bourgogne est donc près de Dijon. La Bourgogne, c'est très très joli, c'est une très belle région. Elle a qu'un défaut, c'est qu'elle est très loin de l'océan. Et moi, je connaissais pas très très bien la Vendée, mais on m'en avait beaucoup parlé. Et donc, on m'avait tellement vanté la Vendée que je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc, en Vendée, il y a la mer, il y a l'océan, il y a également le bocage, et puis il y a le marais. Donc, tout était réuni. Moi, j'adore la nature. Et voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas la Vendée et...
Comment ça se passe? On arrive, on s'installe, on dit je suis écrivain biographe, c'est quand même assez difficile, je pense.
On arrive, on s'installe, on appelle RCF, on appelle Ouest France,
ouais.
On dit à tout le monde qu'on est là, qu'on est installé, on fait un petit peu de publicité, on a un site internet ouais. Qui commence à se développer. Voilà comment ça se passe en fait, hein, et petit à petit, les gens vous font confiance. On va dans les salons du livre aussi, j'ai exposé dans les salons du livre, enfin j'ai eu un stand, on m'a invité très gentiment, et donc j'ai pu faire connaissance avec des gens.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, Patrick Dubois-Baudry? Vous avez un certain nombre de personnes, combien de livres, de récits de vie vous écrivez par an, qu'est-ce que ça représente dans votre activité?
C'est très variable. Je dirais qu'il y a une dizaine de récits de vie par an, mais il y en a qui sont plus courts, il y en a qui sont plus longs. Donc c'est assez difficile à estimer. C'est-à-dire qu'il y a des récits qui vont se transformer en livres, il y en a qui vont rester sur du papier tout simplement. Ce que je voudrais dire, c'est que ma clientèle est assez différente. J'ai des grands-parents qui veulent témoigner, donc ils veulent raconter l'histoire de leur famille à leurs enfants, petits-enfants, leur dire comment ils vivaient. Donc ils font un livre qu'ils distribuent après. Et sinon, il y a des gens aussi qui ont vécu des choses très dures, très difficiles et très lourdes à porter et qui s'adressent à moi simplement pour pouvoir les poser sur le papier et se sentir plus léger, plus libre. Si bien que j'ai, par exemple, je me souviens dernièrement d'avoir travaillé avec une dame qui a eu des problèmes avec l'alcoolisme et qui m'a conseillé, par exemple, pour bien la comprendre, d'aller assister à une réunion alcoolique anonyme. J'y suis allé. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai trouvé en face de moi des gens qui me jugeaient pas, des gens extrêmement tolérants. Donc c'est aussi une autre dimension de mon métier, c'est-à-dire la rencontre avec des gens qui m'apprennent beaucoup. Et je crois que en rencontrant des gens, que ce soit des gens connus ou pas connus, ou enfin des gens simples, je me sens très très humble vis-à-vis d'eux. J'ai toujours beaucoup de leçons à apprendre. Enfin en tout cas moi c'est ce que je pense, ce que je retire.
Mmh. Vous m'avez dit en antenne que vous ne voyez presque pas les gens. Il y a des gens du département qui viennent vous voir, mais Vous faites de votre travail beaucoup par téléphone, notamment.
Aussi étonnant que ça puisse paraître, je fais mon travail par téléphone. Alors moi, au début, j'en revenais pas. Je me disais, ça ne va pas être possible de faire le travail par téléphone. Mais si, ça a commencé de la façon suivante. C'est une personne qui m'a dit, écoutez, moi, je suis en Suisse et me déplacer me coûterait cher. Et donc, j'aimerais le faire par téléphone. On l'a fait par téléphone, ça a très, très bien marché. Et donc, après, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres personnes. Alors, d'un côté, pour certaines personnes, elles préfèrent faire des entretiens par téléphone parce qu'elles n'ont pas mon regard en face d'elles et elles se sentent beaucoup plus libres pour parler. Donc il y a des personnes que je ne connais pas, dont je n'ai jamais vu le visage, j'ai simplement entendu la voix et pour qui j'ai écrit.
Et souvent des choses qui restent, vous l'avez dit, un peu dans les familles ou qui ne sont pas susceptibles d'une publication. D'ailleurs, c'est peut-être assez rare quand même.
Oui, alors ici, il y a des publications. Par exemple, dernièrement, c'est une dame qui m'a raconté le parcours de sa petite fille malade dans les différents hôpitaux, donc qui a publié son livre, justement, qui a bien marché. Mais sinon, souvent les personnes souhaitent simplement le mettre par écrit noir sur blanc et en rester là. C'est pas forcément l'objectif ultime de faire un livre comme dans les librairies.
Et ça doit pas être très facile de se confier quand même comme ça. Vous l'avez dit, bon, le téléphone, c'est sûr, c'est plus facile, mais voilà, il faut, chacun vient avec son histoire quand même.
J'ai une très très grosse responsabilité, vraiment une, ouais. Et je suis très étonné de la confiance que me font les gens. Les gens m'appellent. Ils me disent, je me sens en confiance parce que je leur dis, on va parler ensemble et vous allez voir si le feeling passe entre nous. Et les gens me disent, je me sens en confiance, je peux vous parler. Et ils me confient des choses vraiment qui sont étonnantes, je veux dire, qui sont très, 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 très intimes. Et j'estime avoir une très, très grosse responsabilité. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai...
Oui. Vous êtes un nouveau confesseur.
Écoutez, c'est un terme que j'aime pas du tout, confesseur.
Non,
on parle de confesseur, on parle de psychologue. Je suis pas un psychologue, je suis pas un confesseur.
D'ailleurs, vous en défendez bien.
Oui,
parce que
oui.
Vous leur dites même aux gens d'ailleurs.
Sinon, je ferais de la médecine illégale, de toute façon. Et puis, en plus, je n'en ai pas les compétences. Je me refuse à conseiller les gens. Non, je suis ni un confesseur ni un psychologue.
Mais pourtant, les gens viennent, portent des choses et du coup, ça déborde quelque part.
Oui.
Un peu.
Bah oui, ça déborde et moi je reçois. Et il y a des gens, il y a une personne qui m'a dit, mais si vous êtes un psychologue pour moi, si absolument. Non, je suis donc ni un confesseur ni un psychologue, je suis un interprète. Voilà, je suis un interprète, c'est-à-dire que c'est à moi de traduire le mieux possible, noir sur blanc, ce que la personne m'a confié. Et dans les confidences, il y a des choses terribles. Il y a des gens qui ont fait de la prison, il y a des gens qui ont subi des viols, il y a des gens qui... Enfin, vraiment, il y a des tas de choses vraiment terribles, quoi. Il y a aussi, alors ça, je préfère le dire aussi pour parce que c'est important, il y a des gens qui ont vécu des histoires d'amour et qui veulent raconter leurs histoires d'amour. Et il n'y a pas d'âge pour ça, hein. Moi, la dernière cliente est une jeune fille de 22 ans qui vivait une histoire d'amour et qui a voulu la raconter.
Une histoire d'amour, c'est peut-être celle de vous-même, Patrick Dubois-Baudry, avec le désert. C'est quelque chose, un paysage qui vous sied bien, que vous portez peut-être dans votre cœur. On va écouter justement les chants, un extrait du disque Les Chants du désert dans l'émission Rencontre. Et puis on se retrouve bien sûr tout de suite après pour parler peut-être un petit peu plus en détail, un peu plus de manière technique. Qu'est-ce que ce métier de d'écrivain biographe, comment on peut faire, où est-ce qu'on vous trouve? C'est tout de suite sur RCF. Thank you. Les chants du désert, un disque que nous a amené Patrick Dubois-Baudry, qui est notre invité de rencontre ce mois-ci sur RCF Vendée. Patrick Dubois-Baudry, je rappelle, vous êtes écrivain, biographe, vous écrivez la vie des gens à leur demande. Un parcours atypique qui vous a emmené vers ce métier. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette musique qu'on a écoutée? C'est des souvenirs peut-être vous ou des visions, des choses?
C'est la musique du désert. Bon, c'est vrai que quand je suis allé en Tunisie, par exemple, je suis allé au sud de la Tunisie, j'avais déjà le silence du désert et ça m'émerveillait. Mais surtout, ce que j'aime dans le désert, c'est le côté dépouillement. Et c'est vrai que la surconsommation me met mal à l'aise. Et pourtant, moi, je suis un des premiers à consommer et certainement à surconsommer. Mais c'est vrai que j'ai envie quelquefois de choses dépouillées. J'aimerais qu'à l'intérieur de chez moi, il n'y ait plus rien. Donc voilà, c'est le désert, pour moi, ça symbolise ça, quoi.
Alors, on a un peu parlé de votre parcours, de vos motivations, de manière générale, des gens qui viennent vers vous, hein, vous êtes à la Roche-sur-Yon, et qui viennent pour un projet de raconter un livre. Alors, comment ça se passe? On sonne, on appelle, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement pour aboutir à l'écriture d'un ouvrage comme ça?
Eh bien, en général, les gens me connaissent par mon site internet le plus souvent, donc ils m'appellent, on discute ensemble. Très souvent aussi, il arrive que des gens me parlent pendant une heure, quelquefois deux heures, et après j'ai plus de nouvelles d'eux. En fait, ce sont des gens qui voulaient une oreille attentive pour pouvoir se confier. Donc ça, c'est aussi un autre cas de figure. Sinon, donc les gens me discutent avec moi et me... Voilà, et donc il y a une relation de confiance qui s'établit, il me rappelle une deuxième fois, et on décide à ce moment-là de travailler ensemble. Alors, c'est généralement à partir d'entretiens, ce sont des entretiens qui durent une heure. Je les enregistre. Pourquoi j'enregistre? Parce que je veux tout avoir sur un entretien. Dans un entretien, il y a non seulement les mots, mais il y a aussi les silences, il y a aussi les soupirs, il y a aussi les interrogations. Et moi, ça me permet vraiment d'être très très fidèle par la suite et de vraiment bien retraduire.
Donc, on peut dire que vous êtes un traducteur des silences. Alors, comment on traduit un silence dans un... Qu'est-ce qu'on y met sur une page blanche après?
On met un bel espace blanc. Enfin bon, c'est une façon de parler. Hein.
Mais on peut mettre. On peut rajouter justement dans le style.
Oui, alors absolument, vous avez raison.
Des choses, en fait.
Ah oui, vraiment. Absolument. Oui, vous avez raison. C'est vrai que le silence, je me dis, donc je rajoute des choses. Alors, je suis quand même sur un fil, hein, parce qu'il faut rajouter des choses. Je crois comprendre quelque chose. Donc, je le traduis à ma façon, avec des mots. Mais je veux pas aller trop loin pour pas non plus trahir la personne. Bon, après, elle rectifie de toute façon. Donc, c'est vrai que les non-dits, j'essaye de les interpréter. Et donc de les traduire en mots, absolument.
Oui, parce que les silences sont évocateurs, ils évoquent quelque chose.
Et les soupirs aussi. Il ne faut pas que je me trompe sur les soupirs. Que ce soit un soupir de découragement ou un soupir de bien-être. Donc voilà, il y a tout ça. Effectivement, je suis vraiment un décodeur, je dois décoder.
Souvent, vous êtes dans le mille?
Écoutez, jusqu'à présent, je n'ai pas eu trop de corrections, donc dans le mille, je ne sais pas. J'essaye d'être vraiment attentif.
Oui. Mais pourtant, vous restez sur ce que les personnes vous disent. Vous n'essayez
pas
de... Voilà.
Non, surtout pas. Mmh. Non, je joue pas les écrivains qui veulent se faire plaisir. J'essaye de reprendre leurs mots. Mmh. Je veux absolument qu'ils se reconnaissent. Et ma plus belle récompense, c'est quand ils m'oublient. Quand ils me disent mon livre, voilà. Ils se reconnaissent comme auteur et c'est ma plus belle récompense.
C'est pas trop dur justement d'être tout le temps dans cette humilité, cet effacement. Non mais c'est vrai, c'est très beau, c'est assez beau finalement puisque vous marchez un petit peu à l'envers de notre société qui est plutôt qui pousse les gens, qui les met un peu en concurrence avec nos semblables. Vous êtes plutôt dans l'effacement. Comment vous vous ressourcez? Comment vous vous retrouvez vous?
Oui, je suis pas dans l'effacement, je suis dans l'écoute.
D'accord.
Donc c'est complètement différent, il y a un courant qui passe entre la personne et moi, et donc il y a un aller-retour. Donc en fait, je suis toujours actif, même si je laisse la personne s'exprimer, si je l'écoute. Donc c'est pas vraiment de l'effacement. Hein. Et puis moi, le fait de me tenir un petit peu à l'écart, d'écouter, ça m'enrichit, ça me rend aussi plus sûr de moi. Donc non, c'est également bénéfique. Non, je crois que... Et quand je dis l'humilité, c'est pas la fausse modestie, c'est vraiment me remettre à ma place, et je dis pas ça en disant je ne suis non, je voilà, je sais pas, c'est
alors donc première séance souvent d'une heure, ce sont plusieurs séances d'une heure qui vont aboutir à un livre.
Absolument. Alors pour écrire un livre, mettons de 130 à 150 pages, il faut à peu près une dizaine de séances. Donc les séances sont un petit peu comme des modules. On peut commencer par le début, la personne peut commencer par sa naissance, mais elle peut commencer également par la fin, hein. Je veux dire, il n'y a pas de règles. Et une fois qu'on a fait tous les entretiens, on remet tout en place, hein. On remet tout à plat, et on reconstruit, s'il faut, le livre, quoi. Voilà comment ça se passe.
Est-ce que vous apparaissez quelque part, je ne sais pas, sur une couverture ou quelque part, ou pas du tout ?
Non, je n'apparais pas pour une raison très simple, c'est que moi je prends, c'est une prestation, je me fais payer pour la prestation. Si je me faisais pas payer, je demanderais à ce moment-là des droits d'auteur. Alors il y a des biographes effectivement qui demandent des droits d'auteur quand la personne est éditée, moi j'en demande pas. Sinon il y a des personnes qui très gentiment me remercient, c'est-à-dire dans le livre. Donc remercie à Patrick Dubois-Baudry de sa collaboration. Donc ça oui, effectivement ça arrive, mais moi je demande rien, quoi. En général, sur la couverture, c'est vraiment le titre et le nom de l'auteur.
Combien ça coûte ?
Ça coûte cher, relativement cher. Je veux dire, ça peut paraître élevé, puisqu'un entretien coûte 140 €, toutes taxes comprises. Et pour écrire un livre de 120-130 pages, donc c'est 1 400 €. Alors, qu'est-ce qui coûte cher dedans ? C'est le temps. On passe énormément de temps. Mais comme je dis, il y a des gens qui achètent des appareils très sophistiqués qui iront à la casse, qui iront à la ferraille. Ça n'ira jamais à la ferraille, un récit de vie. Hein. Ça va passer des générations et des générations. Donc c'est un investissement, non pas seulement pour la vie, mais pour des générations. Et voilà, ça c'est. Je pense que c'est important de le dire, de le souligner.
Alors, vous êtes installé en Vendée depuis 6 ans à peu près. Il y a des rencontres qui vous ont quand même marqué et qui vous, de même manière presque, qui vous façonnent peut-être aussi, qui vous transforment peut-être un peu, qui vous montrent aussi l'homme, l'humain, dans ce qu'il y a parfois de plus terrible, mais aussi de plus beau, hein, où il y a de l'espoir aussi.
Absolument. Je me suis aperçu que les gens qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui paraissent comme ça abattus ont toujours une petite flamme, toujours cette flamme de l'espoir, et ça m'a toujours étonné. Il y a toujours quelque chose qui, même si c'est une flamme très fragile, mais on sent qu'elle est là. Et je veux dire, c'est très 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 encourageant. Et en ce moment-là, je vais vous parler de l'histoire que je suis en train, enfin d'une des histoires que je suis en train d'écrire, qui est assez étonnante. C'est une personne en fait qui a été mise à l'orphelinat très tôt alors qu'elle avait des parents. Mais bon, sa mère a été mise à la porte chez elle par son mari, donc c'était très compliqué. Ensuite, elle a été reprise par sa mère très petite, et sa mère s'est livrée à la prostitution. Et donc voilà, ils étaient voilà, la petite fille a vécu dans cet univers-là. Et après cette petite fille donc a grandi, elle s'est livrée elle-même, enfin après, à son tour à la prostitution, et après elle est allée chez les Peuls, donc une tribu africaine, faire de l'humanitaire. Donc c'est un parcours qui est assez extraordinaire et qui, voilà, devant lequel je suis toujours ébahi.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'adversité n'a pas le dernier mot, on peut dire ? Que l'homme, oui, porte quelque chose qui le dépasse pour aller vers les autres.
Oui, moi je pense. Alors cette personne, elle est très croyante. Voilà. Je crois que c'est son moteur. Je pense que c'est la foi en ce qui la concerne, elle, hein, qui l'a sauvée. Donc voilà, c'est. Elle a eu tout d'un coup une révélation. Je pense que c'est ça. Ouais.
Il y a d'autres personnes, je pense à cette dame qui a eu un parcours assez difficile, qui va la plonger dans l'alcoolisme, et qui finalement, le récit de vie que vous faites, c'est le récit un peu de sa victoire aussi, hein.
Alors cette dame, elle est assez extraordinaire en fait. Donc c'est une dame qui est d'origine paysanne, donc elle a été élevée dans une ferme, voilà. Et une vie très difficile, parce que, bon, à l'époque, il y avait très très peu de confort, un peu malmenée par un père alcoolique. Ensuite, elle épouse un homme alcoolique, donc ça va pas du tout. Elle divorce, à son tour, étant donné qu'elle exclut du monde du travail pour raison de santé, elle devient alcoolique. Et elle rencontre l'association des alcooliques anonymes, sorte de miracle, c'est-à-dire que dès qu'elle assiste à une réunion, elle arrête définitivement, et jusqu'à, elle n'a plus jamais repris, alors qu'avant elle tombait dans la rue, enfin vraiment c'était épouvantable. Et puis cette femme m'a beaucoup étonné, parce qu'elle n'avait jamais quitté sa région, et puis tout d'un coup, elle décide de prendre le train, d'aller à Roissy, de prendre l'avion, d'aller à Moscou, de prendre le Transsibérien et d'aller en Chine. Et voilà, elle a fait ce parcours-là en disant « j'ai envie de me retrouver avec moi-même ». Donc voilà, c'est, vous voyez, il y a des gens qui sont vraiment extraordinaires et vraiment surprenants. C'est une, à l'origine, c'est une paysanne, donc qui n'avait pas quitté sa terre.
Et qui s'est reconstruite petit à petit comme ça.
Et qui s'est reconstruite petit à petit et qui est devenue une mamie heureuse, épanouie, voilà, qui m'apporte beaucoup. Je veux dire, c'est pas à sens unique. Les entretiens que j'ai m'apportent également. C'est-à-dire que les gens m'apportent. Et aussi, ce qui m'apporte, c'est qu'ils m'enlèvent mes préjugés. Parce qu'on a toujours des préjugés. On a l'impression, par exemple, moi, je pensais à tort que quelqu'un qui était alcoolique, c'est quelqu'un vraiment qui était pas présentable, qui était pas montrable, alors que c'est pas du tout le cas. Donc j'avais des préjugés qui étaient inconscients, mais surtout sur la prostitution, sur les gens qui faisaient de la prison, je pensais être quelqu'un de très tolérant, de très ouvert. En fait, je m'aperçois que j'avais des préjugés à l'intérieur. Donc ça permet de s'en libérer. Ça permet de tout faire tomber, quoi. Enfin, d'essayer, parce qu'on en a toujours malgré tout.
Tous les récits sont pas forcément tous intéressants. C'est quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
C'est très bien ce que vous me posez comme question. Parce que justement, il y a des gens qui me disent vous savez, moi j'ai envie de raconter ma vie, mais elle n'est pas intéressante. J'ai jamais quitté mon village. J'ai pas fait grand-chose. Mais je lui dis mais justement, monsieur ou madame, c'est ça qui compte. Je veux dire, ce qui est important, c'est l'émotion que vous allez faire passer. Et moi, j'ai eu le cas d'une personne qui n'avait jamais quitté son village, mais qui faisait passer une telle émotion. Et cette personne, elle savait pas écrire, en fait. Elle écrivait extrêmement mal. Enfin, elle avait du mal avec l'orthographe et tout ça. Elle était très presque illettrée. Et je suis certain que si cette femme avait fait des études, elle aurait été certainement un auteur reconnu. Parce qu'elle avait une sensibilité qui était étonnante. Enfin, qui était vraiment.
Les mots sortaient de sa bouche, vraiment.
Les mots sortaient de sa bouche et des mots que je n'aurais pas pu trouver. Vraiment, elle était d'une sensibilité, d'une délicatesse. Hein. Et comme quoi, alors donc, pour moi, c'est pas les gens qui ont fait le tour du monde, c'est pas les gens qui ont fait des tas de choses, qui ont fait un voyage en ballon, qui ont remonté l'Amazone. Non, c'est l'émotion qui compte. Donc voilà, on peut avoir une vie très casanière, très rangée, mais on peut avoir une vie passionnante, justement, à travers ce qu'on fait passer.
Il y a des personnes, des clients, on peut dire, justement, qui sont assez atypiques, qui ont vécu une période de prison à la suite d'une condamnation, et qui en sortent, mais qui veulent témoigner peut-être quelque chose pour la société, peut-être, ou qui veulent demander peut-être pardon, peut-être aussi, sous cette forme de l'écriture.
Oui, alors et c'est vrai qu'il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui sont très peu nombreux, mais qui veulent écrire pour régler des comptes. Donc voilà, ça existe aussi. Et puis il y a d'autres personnes qui veulent écrire non plus pour régler des comptes, parce qu'elles ont fait le chemin, mais simplement, elles ont pardonné. Elles ont pu pardonner tout le mal qu'on a pu leur faire. Et donc elles sont prêtes maintenant, elles se sentent sereines et elles veulent simplement poser des choses sur le papier. Mais je veux dire sans être aigries, sans être révoltées, sans être remontées.
Il y a des livres que vous refusez d'écrire ?
Oui. il y a des livres que je refuse d'écrire. Par exemple, il y a des personnes qui attendent de moi des choses que je peux pas leur apporter. Qui pensent qu'en écrivant un livre, elles vont résoudre leurs problèmes psychologiques. Il y a des personnes aussi qui sont fragiles psychologiquement et je sais que je leur ferai... je veux dire, je ne serai pas honnête en disant « bah oui, on va écrire votre livre et vous allez voir, ça va aller bien, ça va aller mieux et tout ça ». Donc oui, je refuse d'écrire ce genre de livre. Il y a une personne, par exemple, qui voulait faire passer un message à sa fille avec qui elle avait beaucoup de problèmes par un livre et j'ai dit non, c'est pas possible. Je veux dire, allez voir peut-être une association ou un psychologue. Moi, je peux pas répondre à ça. Et si, voilà, donc c'est absolument ça arrive.
On va marquer une deuxième pause musicale dans l'émission Rencontre. On est avec Patrick Dubois-Baudry, qui est écrivain biographe, qui nous conte un petit peu sa vie quotidienne et les gens qu'il rencontre. On leur remercie, bien sûr. On va écouter une chanson de Barbara, mais qui est interprétée par quelqu'un. Vous pourriez nous présenter cette pause musicale ?
Oui, alors justement, cette personne m'a beaucoup touché. C'est une personne que j'ai simplement eu au téléphone.
Vous ne connaissez pas son identité, même, je crois. Si, enfin, si.
Non, je ne veux pas révéler son identité, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est réfugié politique et qui a subi la torture, donc beaucoup de difficultés et tout ça. Et donc, on ne s'est jamais vu, mais on a communiqué, qui vit en Europe maintenant, et on a communiqué par téléphone. Et cette personne a fait un disque donc en amateur et chante Barbara. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Donc, c'est une façon de lui rendre peut-être un hommage, même si peut-être qu'il n'écoutera jamais. Voilà, c'était pour lui rendre un hommage.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, ce dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, ces derniers naufrages. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et diambulerons dans les rues de Paris. Quand reviendras-tu? Dis, moi le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris c'est beau dans cette fin d'automne. Soudain je me languis, je rêve et je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton humainement, je te parle tout bas. J'ai le mal d'amour, j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Moi le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux un beau souvenir. Je reprendrai la route, le monde m'émerveille. J'irai me réchauffer à notre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, quand reviendras-tu? Dis, ou moi le sais-tu, que le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Une chanson de Barbara, dit quand reviendras-tu, interprétée par un artiste tout à fait anonyme avec lequel vous avez travaillé, Patrick Dubois-Baudry. C'est la dernière partie de Rencontre, ou émission qui nous permet de mieux vous connaître, mieux connaître votre vous d'abord, et puis aussi votre métier, écrivain biographe. Et c'est quelqu'un d'ailleurs que vous n'avez jamais vu physiquement.
C'est quelqu'un que j'ai jamais vu physiquement. Et mais qui a eu quand même à un moment donné la gentillesse de m'envoyer deux photos de lui. D'ailleurs, c'était la même photo. Il y en avait une en noir et blanc et une autre en couleur. Et c'est un monsieur qui était très très marqué psychologiquement. Et enfin voilà, mais qui m'a aussi apporté beaucoup. On a eu des échanges vraiment très très intéressants. Et c'est un monsieur qui a subi la torture, enfin qui a eu vraiment un parcours extrêmement difficile, mais tout à l'heure on parlait justement de cet espoir, de cette petite flamme. Eh bien, lui, il avait cette petite flamme et vraiment, il s'en est vraiment très très bien tiré. Il s'est reconverti. Enfin, il a changé de cap. Il a quitté son pays. Et voilà quoi. C'est quelqu'un qui est maintenant beaucoup plus serein.
Il y a des gens finalement, l'anonymat, même le téléphone. Peut permettre de se remettre plus en confiance et à la rigueur vous auriez moins peut-être d'a priori sur ces personnes-là peut-être au départ quand il faut tisser un lien pour un travail futur.
Ben d'abord au téléphone, moi je me sens moins intimidé parce que c'est vrai que je suis toujours intimidé devant quelqu'un, ouais. La personne est intimidée aussi, moi je suis intimidé devant un regard. Bon, c'est vrai que les regards c'est important parce qu'on voit beaucoup de choses dans un regard, hein. On voit beaucoup de choses passer, mais dans la voix il y a énormément de choses qui passent aussi et je sens les voix ou je les sens pas. Donc je pense avoir pas mal d'intuition au niveau de la voix et je trouve qu'il y a une convivialité, il y a une sorte d'intimité qui s'installe et à la limite le regard ne me gêne pas. Alors quelquefois je suis un petit peu curieux, je me dis tiens, à quoi peut ressembler cette personne-là ? Est-ce qu'il est blond, est-ce qu'il est brun, est-ce qu'elle est blonde, est-ce qu'elle est rousse ? Voilà, mais c'est une simple curiosité quoi.
Mmh. Ça évite les préjugés peut-être.
Oui, ça évite des préjugés, parce que c'est vrai qu'on a tendance quelquefois à... Oui, absolument, ça évite des préjugés et absolument, ouais, tout à fait.
Quel sentiment vous avez, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous quand justement vous sentez que le récit peut-être monte en émotion ou quand vous sentez qu'il y a quelque chose?
J'ai régulièrement des gens qui pleurent au téléphone. Je leur dis une chose qui est très importante pour moi, parce que je veux mettre les choses au point dès le départ. Je vais pas compatir. Je leur dis, vous savez, quand vous allez me dire quelque chose, je vais pas dire, oh là là, mon Dieu. Je vais pas m'exclamer. Étant donné que je veux rester à l'extérieur, je veux rester relativement objectif. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez l'impression, que j'ai pas beaucoup d'empathie pour vous. Ça sera pas le cas. Je serai simplement à votre écoute. Mais je veux rester, justement, le plus objectif possible pour pouvoir être un bon traducteur. C'est ce que je leur dis très, très souvent.
Il y a de la joie aussi quand un récit arrive peut-être à sa conclusion, quand vous voyez que l'écriture fait plaisir aussi à la personne qui vous fait aussi cette commande.
Oui, il y a de la joie quand on arrive à terminer un projet. Justement, je viens de terminer il n'y a pas longtemps un projet, quand la personne est allée au bout de son projet. Absolument. Il y a des personnes qui me disent, des personnes âgées, qui voulaient absolument écrire leur livre, qui me disent maintenant je peux mourir tranquillement, et oui ça m'est arrivé, il y a des gens qui me l'ont dit, absolument. Donc il y a de la joie effectivement quand on a abouti à un projet. Il y a de la joie également par certaines anecdotes qu'on me raconte qui sont vraiment extrêmement drôles. Donc il y a des choses très très belles, très drôles, et il m'arrive très souvent de rire au téléphone parce que là je peux pas rester objectif, je ris, ouais, c'est plus fort que moi.
Qu'est-ce que alors on peut tirer un livre pour quelques, on peut tirer un livre comme ça pour quelques exemplaires aujourd'hui c'est possible grâce peut-être à Internet.
Et oui, mais grâce à l'impression numérique, ça a été une révolution. Mmh. Avant effectivement on pouvait pas du tout, maintenant on peut tirer 5, 10 livres, 20 livres pour un prix tout à fait raisonnable. On peut même faire imprimer son livre sur Internet directement, c'est-à-dire sans voir la tête de l'imprimeur. Donc voilà, vous rentrez votre programme et vous avez un livre.
C'est ce que font certains de vos clients après ?
C'est moi qui m'en occupe
en
général.
C'est
moi qui, enfin, c'est un service que je rends, oui. Donc c'est moi qui m'en occupe. Alors il y a deux possibilités, où je passe par un imprimeur que je connais, ou bien on le fait en ligne. Mais ouais, c'est moi qui m'en occupe. C'est un service parce que les personnes ne veulent pas s'embêter techniquement. Donc je prends rien pour le faire, mais je veux aller de la page blanche jusqu'à la réalisation du livre. Donc je les aide. Ouais.
Est-ce qu'on reste à la page d'écriture ou les photos sont possibles de mettre plein de choses finalement dans
Oui, mais absolument. Mais les photos sont tout à fait possibles. Donc une fois qu'on a terminé le récit proprement dit, on insère des photos. On insère toute une série de photos, donc on les légende, absolument. Après, il y a la préface, il y a le texte qui est au dos. Et ce que je voulais dire, c'est que le livre est comme un livre en librairie, c'est-à-dire qu'on c'est vraiment un vrai livre, quoi.
Mmh. Et c'est vrai que, oui. Mais il y a des livres vraiment qui prennent le chemin des librairies aussi, ça arrive, peut-être rarement.
Oui,
mais...
oui, il y a un monsieur, alors je cite pas son nom parce que, mais bon, c'est un monsieur qui a effectivement a réussi à vendre un certain nombre de livres, oui, oui, tout à fait. Mais c'était une personnalité en fait, hein. Personnalité locale.
D'accord.
Donc voilà, tout à fait, ça arrive. Il y a une personne également qui a été éditée, donc qui a vendu pas mal de livres également. Oui, donc tout à fait, oui.
Patrick Dubois-Baudry, vous voyez encore plusieurs années, écrivain, biographe. C'est quelque chose qui vous voilà, qui vous.
Oui, j'aimerais pouvoir écrire jusqu'à ma mort. Ça serait bien, oui. Pourquoi pas?
Oui, c'est une passion qui a rejoint une activité professionnelle certaine pour vous.
En fait, c'est une passion. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, c'est de pouvoir leur parler, c'est de pouvoir les interviewer, c'est de pouvoir les écouter. C'est ça avant tout. Hein. C'est vraiment très très important pour moi, quoi. Donc voilà, quoi. J'ai rien programmé, mais je peux changer complètement de métier, pourquoi pas. Après tout, ouais. Mais c'est vrai que ça me passionne.
Est-ce que ce tissu humain de rencontres, de gens, d'histoire, est-ce qu'il vous fait un petit peu, on a tous des croyances, des convictions, des philosophies, est-ce que ça vous fait un peu philosopher, un peu réfléchir peut-être sur l'humanité ou sur la foi peut-être pourquoi pas?
Sur le sens de la vie.
Oui, sur le sens.
Ouais, sur le sens de la vie, je sais pas, je m'aperçois que...
C'est une question difficile.
Oui, c'est une question très difficile parce que je l'ai pas prévu cette question. Donc ce que je m'aperçois en fait, pour moi ce qui est important c'est cet espoir, l'espoir qui est toujours là, cette lumière qui est toujours là. Les gens s'en tirent chacun à leur façon. Alors il y en a ça va être la foi. Il y en a d'autres ça va être autre chose, je veux dire, mais les gens ils arrivent toujours ou souvent à s'en sortir. Et donc je m'aperçois, c'est pas de la philosophie que je vais faire, mais je m'aperçois que j'ai beaucoup de chance, quoi, que je suis vraiment quelqu'un de privilégié. Et je m'aperçois qu'il y a des familles qui sont peut-être plus touchées que d'autres, qu'il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres, et voilà, quoi. Mais non, de philosophie à tirer, là vous me prenez un petit peu de cours, hein. J'ai certainement des choses à dire, mais là j'avoue que je cale.
Vous n'avez pas d'expérience spirituelle, vous avez la foi ou pas?
Alors je vais être très franc avec vous, je n'ai pas la foi, ouais. Par contre je pense que la vie ne se termine pas après. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs entrées dans le monde, qu'on ne connaît qu'une dimension. Alors, je sais pas, on peut l'appeler, il peut y avoir Dieu, mais on peut l'appeler différemment. Ça peut être une énergie, donc voilà. Mais après, on en parlait, moi, je n'ai pas la foi, mais je sais qu'il y a des choses très bonnes, qu'il y a des choses qui se passent, et je suis sûr qu'après la mort, il y a autre chose. Alors, bon, c'est peut-être pas la foi, c'est pas peut-être pas une religion, mais c'est une éthique, il y a des choses, et je trouve que dans la religion, il y a des choses très intéressantes, je veux dire, moi qui m'intéresse énormément, hein, dans toutes les religions d'ailleurs. Et donc je m'inspire aussi de ça. Hein. Je suis pas quelqu'un de fermé, loin de là.
Oui, il y a des gens justement pour qui dans certains récits de vie, la religion ou la foi peut-être à compter beaucoup,
bien sûr,
qui structure aussi peut-être des récits, ou des rencontres avec, je sais pas, peut-être une personne, un prêtre, une religieuse, ou des choses qui ont marqué peut-être des...
Absolument. Oui, non, il y a des gens qui ont fait de très très belles rencontres, notamment cette personne dont j'ai parlé, qui s'était prostituée, qui a téléché l'Apple après. Elle a eu une révélation, je veux dire. Elle a rencontré. Je crois que c'est une religieuse qu'elle a rencontrée et qui lui a ouvert les yeux. Et cette personne s'est mise à croire. Et je crois que c'est ça qui l'a vraiment considérablement aidée. Et c'est une autre personne également qui était athée au départ et qui a aussi découvert la foi et donc un nouveau sens à sa vie. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une dimension très très importante. Ouais.
Merci Patrick Dubois-Baudry. C'est notre émission qui arrive, touche un peu à sa fin. Rencontre, pour mieux vous connaître. Donc je rappelle aussi peut-être les coordonnées, si les gens veulent aller voir aussi votre activité sur le web. Vous avez un site www.lemarronnierrouge.com, je crois, c'est ça. Et vous écrivez un blog aussi qui s'appelle Écrire un livre. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez dans votre blog?
Dans le blog, je mets mes états d'âme, mes humeurs. Ça peut très bien parler au fil du jour. Oui, je sur l'écriture, ce que je pense de la construction d'un livre, des expériences avec des clients, ce qui me passe par la tête en fait, parce que c'est vraiment un lieu d'échange pour moi. Voilà, et donc il y a des gens qui commentent, je leur réponds, on échange, c'est très interactif, quoi.
Mmh. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu de l'interview, Patrick Dubois-Baudry, merci beaucoup à tous et à toutes, une excellente continuation, bien sûr, à l'écoute d'RCF.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.